Frédéric Barrère, bonjour Frédéric.
Bonjour Ali Badou, bonjour à tous. Les commerces dits non essentiels, à nouveau ouverts, une réouverture entre soulagement et appréhension. Nous irons rue Rivoli à Paris dans un instant avec Claire Chaudière. Un geste, une aide pour les commerces qui, eux, restent fermés. Bruno Le Maire annonce que le plafond d'indemnisation sera doublé à 200 000 euros par mois. Le ministre de l'économie en déplacement ce matin à Reims, aux côtés du Premier ministre Jean Castex. Mobilisation dans la rue contre la loi sécurité globale. Des rassemblements ont lieu partout en France, dans un contexte très tendu, après une série d'affaires policières, de violences policières. Invité de ce journal, Jérôme Fenoglio, directeur du quotidien Le Monde. Dans ce journal également, les tests salivaires, l'autorité de santé favorable à leur utilisation et à leur remboursement sous condition. Et puis la prescription culture de ce week-end, Cheyenne et Lola, une nouvelle série mise en ligne cette semaine. La météo, toujours instable aujourd'hui avec de la pluie, des orages et du vent sur le sud-est. Au nord, le ciel hésite entre nuages et éclaircies. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition à 13h20. Secret d'info au programme aujourd'hui, Jacques Monin.
Il a horrifié la France en assassinant Samuel Paty, mais qui était Abdullah Kantsorov et comment s'est-il radicalisé au point de se transformer en bourreau? C'est donc ce qu'on va essayer de comprendre avec l'enquête de Laetitia Chéral.
Secret d'info, Jacques Monin à 13h20.
France Inter.
Le mois de décembre est stratégique économiquement pour les commerces et pouvoir ouvrir dès ce week-end à 4 semaines de Noël est précieux pour les petits commerçants. Depuis ce matin, les commerces comme les librairies, les magasins de jouets ou les coiffeurs peuvent rouvrir selon un protocole sanitaire très strict et notamment ce fameux espace de 8 mètres carrés par client. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour.
Vous étiez ce matin rue de Rivoli où les commerçants espèrent limiter la casse et tenter de sauver leur année.
Oui, on va remonter le fil de cette matinée un petit peu particulière. 9h30, le rush des livraisons avant l'ouverture des rideaux aux clients. Mais dans la rue, il y a déjà Mam et Annick dans les starting blocks.
J'avais envie de sortir 3 heures. Donc je suis partie pour 3 heures.
Avec votre sac pour faire des cours.
Et voilà, voilà, voilà. Je vais rentrer ou bien je vais un petit peu plus tard, quoi, vers 10 heures.
On attendait ça depuis un moment pour pouvoir s'acheter certaines choses pour l'hiver.
Un manteau, des gants, une paire de chaussures. Ça y est, il est 10 heures. David, étincelant, sourire aux lèvres, en grande discussion avec l'un de ses clients qu'il retrouve enfin.
Je suis commerçant depuis 40 ans, je suis né dedans. Enfin, moi je suis hyper heureux là. Depuis hier soir, je fais des bons, quoi, je suis hyper content. On revient sur un semblant de normalité.
Et si jamais tu fais la marchandise,
je viens juste d'ouvrir.
Oui, les premiers clients arrivent et là je vais au taquet par contre.
Au taquet, mais très vite, un peu de logistique s'impose. Respecter la jauge de 8 mètres carrés par client est un véritable casse-tête dans ce magasin très étroit.
C'est très compliqué. Là, je fais comment? Là, c'est une mère avec ses 3 enfants. Je vais les gérer comment? Plus la dame. Et vous, vous ne devez pas être là non plus.
Donc, je m'en vais. Allez, je m'en vais.
Allez, je m'en vais. 11h, à la sortie des magasins, dépassant les sacs pleins les mains des familles aussi.
Des doudous, on a acheté un mini-golf. Une tirelire, plein de trucs.
Mais en plus, il y avait des promotions, donc on en profite.
J'allais acheter un cadeau pour ma nièce. J'avais envie de lui faire plaisir et c'était une façon aussi de reprendre contact avec la vie sociale.
Se remonter le moral. Très peu de clients avaient déjà la tête au cadeau de Noël ce matin. Cela viendra probablement d'ici quelques jours. On ne rattrapera pas les pertes, m'ont dit la plupart des commerçants. Mais il faut tout faire maintenant pour limiter les dégâts.
Claire Chaudière, merci. Alors voilà pour Paris, la fébrilité des commerçants dans cette dernière ligne droite de 4 week-ends avant les fêtes de fin d'année est également palpable en région. Jean Castex, le Premier ministre, était ce matin à Reims avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a annoncé lors de ce déplacement que pour les entreprises fermées, le plafond d'indemnisation sera doublé à 200 000 euros.
Ça veut dire que pour tous les restaurateurs, pour les hôteliers qui auraient perdu 50% de leur chiffre d'affaires ou 70% de leur chiffre d'affaires à partir du 1er décembre, ils pourront demander une indemnisation au titre du Fonds de solidarité à hauteur de 20% de leur chiffre d'affaires avec un plafond qui sera de 200 000 euros par mois. Ça permettra de couvrir tous les restaurateurs qui ont 2-3 restaurants. Ça permettra de couvrir les chaînes de restauration. Ça permettra de couvrir des hôtels qui ont plusieurs dizaines de salariés, parfois plusieurs centaines de salariés, et qui n'étaient pas couverts jusqu'à présent. Donc nous avons une indemnisation qui est massive, qui est immédiate à partir du début du mois de décembre, et qui permet d'accompagner tout le secteur de l'hôtellerie, des cafés, de la restauration, mais aussi des salles de sport, de tous ceux qui sont les premières victimes de cette crise sanitaire, de cette crise économique, parce qu'ils appartiennent au secteur touristique.
Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, avec Stéphane Maggiolini de France Bleu Champagne. De nombreuses manifestations sont donc prévues aujourd'hui dans toute la France contre la loi Sécurité Globale. De multiples rassemblements dans un contexte très tendu et rendu très vif en raison d'une série d'affaires de violences policières et notamment le passage à tabac du producteur Michel Zecler à Paris. Face au risque de débordement, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a ce matin rappelé les policiers à leur mission. Dans une lettre, le préfet de police leur demande de tenir la ligne républicaine et de ne jamais trahir leur engagement. Le renier, dit-il, c'est perdre le sens de notre mission. La manifestation la plus importante aura lieu cet après-midi à Paris, au départ de la place de la République. Mais ce matin, plusieurs rassemblements ont déjà eu lieu, et notamment à Rennes, avec plusieurs milliers de participants.
Ils étaient près d'un millier à 11h, puis la place de la République s'est rapidement remplie. 4000 personnes se sont élancées dans un cortège qui est revenu plus dispersé à son point de départ. Dans les discussions reviennent les images de la semaine, de l'évacuation de la place de la République à Paris jusqu'à l'agression d'un producteur de musique. Un festival de n'importe quoi, dénonce le club de la presse Bretagne à l'origine du rassemblement. Durant les prises de parole, la Ligue des droits de l'homme a qualifié l'article 24, le plus controversé sur la diffusion des images de police, de chiffon rouge qui ne doit pas éclipser les autres articles de la loi Sécurité Globale. Dans le cortège, une enseignante se réjouit que ces images aient marqué les consciences. Ils sont 4 fois plus nombreux aujourd'hui que samedi dernier ici à Rennes. Ça nous concerne tous, lance Patrick. Il travaille dans le social et n'est donc pas concerné directement par la loi. Dans sa main, une pancarte avec un seul mot, honte, et se dit gêné pour les policiers. Beaucoup de journalistes dans les rangs, mais pas seulement. De nombreux Rennais sont venus en famille pour ce rassemblement qui se déroule dans le calme pour le moment. C'est la 3e mobilisation contre la proposition de loi. Reste à l'heure où je vous parle une majorité de jeunes qui ont relancé le cortège à coups de slogans dénonçant les violences policières.
Maxime Glorieux de France Bleu Armorique. Et l'inquiétude est grande face à d'éventuels débordements lors de cette journée de mobilisation. Le message ce matin du préfet de police de Paris aux policiers en est une illustration, tout comme le message sur Facebook hier soir d'Emmanuel Macron dénonçant l'agression inacceptable du producteur Michel Zecler par des policiers. Des images qui nous font honte, a écrit le chef de l'État. Emmanuel Macron, entre crise politique et inquiétude face aux manifs. Maxence Lambrecq.
Si Emmanuel Macron a pris la parole hier soir sans attendre, c'était à la fois pour apaiser sa majorité énervée comme jamais et pour prévenir les manifestations d'aujourd'hui. Envoyer un message on ne peut plus clair au ministère de l'Intérieur demandant des forces de l'ordre exemplaires. Le respect des valeurs de la République, écrit-il, et la déontologie doivent être au cœur de l'engagement de toutes nos forces de l'ordre. Dernier avertissement avant sanction, analyse un cadre de la majorité. Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, n'a jamais été autant sous pression. La moindre séquence remettrait de l'huile sur le feu. Dans les allées du pouvoir, on craint le début d'une nouvelle spirale infernale, similaire à celle des Gilets jaunes. Au départ, une mesure, l'article 24 de la proposition de loi Sécurité Globale, autour de laquelle se cristalliserait vite une fronde contre la police, contre le gouvernement, avec chaque samedi des défilés violents. Dans la Macronie, ils sont de plus en plus nombreux à réclamer l'abandon de cet article 24 pour sortir de ce conflit et éviter qu'avant Noël, comme il y a 2 ans, des commerçants à peine déconfinés doivent encore baisser le rideau.
Maxence Lambrecq, invité de ce journal, Jérôme Fenoglio, directeur du journal Le Monde. Bonjour Jérôme Fenoglio.
Bonjour.
Est-ce que vous irez manifester cet après-midi ?
Oui, bien sûr, j'irai manifester parce qu'il y a de multiples raisons de le faire en tant que citoyen, en tant que journaliste, en tant que directeur du journal Le Monde. Il faut défendre des principes, il faut, là en l'occurrence, pointer des dérives qui sont inacceptables dans le maintien de l'ordre et il faut défendre par ailleurs un fondement de notre liberté démocratique, c'est le droit d'informer. C'est un droit qui n'est pas seulement un droit de journaliste, c'est un droit de tous les citoyens.
Alors, votre journal, Jérôme Fenoglio, est très engagé contre ce projet de loi Sécurité Globale, avec des articles, des éditoriaux. Vous demandez le retrait de plusieurs articles, hein, l'article 24, dont on parle beaucoup, mais aussi les articles 21 et 22.
Oui, absolument, parce que on parle tous de l'article 24 et on voit bien à quel point on aura beau le réécrire. Cet article est devenu totalement indéfendable. Des images cette semaine, malheureusement, des violences terrifiantes qui ont été commises le prouvent, mais il y a effectivement d'autres articles qui déséquilibrent ce principe même que la police doit être garante d'un ordre républicain, mais qu'elle peut être aussi dans un jeu d'équilibre des pouvoirs et que c'est tout à fait normal. Nous allons aujourd'hui vers une société où nous serons de plus en plus filmés en tant que citoyens. Il est tout à fait normal aussi que la la police puisse répondre de ses actes avec des images. Donc il y a plusieurs articles de loi qui créent une disproportion. Celle qui généralise les drones sans contrôle pose un problème. Celle qui légitime la publication des images prises par les policiers, ce qu'on appelle les caméras piétons, pose problème également. Parce que si c'est la police qui maîtrise le récit sur ce qui est en train de se passer, et si nous, citoyens, nous ne sommes plus que des objets filmés, mais qui ne sont pas capables, par ailleurs, de produire des images qui sont un matériau pour les journalistes, alors nous aurons une multiplication d'abus tels que nous les avons vus cette semaine. Heureusement que dans le cas du producteur de musique Michel Guéclair, il y avait des images, heureusement, sinon une injustice majeure allait être commise. Non seulement des actes violents étaient commis à son encontre, mais en plus on allait sans doute féliciter, récompenser des policiers qui les avaient commis, puisqu'ils produisaient, d'après ce que l'on sait aujourd'hui, un discours totalement mensonger sur ces actes. Donc ça, c'est pas possible. Il faut maintenir l'équilibre, et ce projet de loi, cette proposition de loi en l'occurrence, pour nous, crée du déséquilibre.
Les vidéos que l'on a vues cette semaine, hein, vous parliez de l'agression de Michel Guéclair, l'agression au passage à tabac, ça aurait été, s'il n'avait pas eu lieu, vous n'auriez pas pu vous sortir l'affaire Benalla en juillet 2018, par exemple.
Mais bien entendu, il y a eu évidemment l'affaire Benalla qui montre effectivement alors un désordre majeur créé en plus par un membre de l'équipe de l'Élysée. Il y a eu depuis, nous avons documenté à différentes reprises des violences qui ont été commises pendant les cortèges des Gilets jaunes. On ne peut le faire qu'avec des images qui arrivent de sources différentes. Des images produites par des journalistes, des images aussi qui viennent de citoyens qui, à un moment, sont des lanceurs d'alerte. Donc là, l'enjeu, c'est pas seulement défendre le droit des journalistes et uniquement eux à être les maîtres de l'image, pas du tout. C'est de faire en sorte qu'ils puissent aussi travailler avec une multiplicité de sources et que ces sources leur permettent de faire leur travail. On a reconstitué sur plusieurs fois sur des cortèges de Gilets jaunes, grâce à des multitudes de sources, le film complet de dérapages, de dérives policières qui étaient inacceptables. Et on ne pourrait plus le faire s'il y avait cet article 24 est totalement inacceptable parce qu'il conduit à une forme d'autocensure et conduit à une forme de menace sur toute personne susceptible de prendre des images.
Alors on comprend bien la menace que fait peser cet article 24, mais d'un autre côté, Jérôme Fenoglio, comment on protège les policiers et leurs familles des attaques sur les réseaux sociaux? Quelle est la bonne mesure selon vous?
En fait, la réalité, c'est que le texte existe. Aujourd'hui, il est absolument illégal de délivrer d'appeler à la violence sur les réseaux sociaux. Ça protège tous les citoyens, qu'il faille particulièrement protéger et être vigilant sur les policiers qui ont été victimes d'actes terroristes absolument inacceptables, atroces et totalement indéfendables, évidemment. Bien entendu, il faut le faire, et il faut le faire pour toutes les catégories de personnes. Mais il y a des textes qui existent là-dessus, et il faut lutter contre le terrorisme, lutter contre les attaques à la violence et à la haine, mais c'est prévu par les lois actuelles. Et il faut simplement bien veiller qu'elles soient appliquées au lieu de rajouter des textes extrêmement litigieux parce qu'on voit bien qu'ils sont faits avec des arrière-pensées électoralistes, corporatistes et qu'ils ne seront pas efficaces en réalité pour protéger les policiers. La réalité aujourd'hui, c'est qu'ils les exposent malheureusement à un soupçon de vouloir être impuni quand ils commettent des abus et que ça déséquilibre aujourd'hui le bon fonctionnement de la démocratie.
Merci beaucoup Jérôme Fenoglio, directeur du journal Le Monde, merci à vous. Les tests salivaires vont-ils sauver Noël? La Haute Autorité de Santé s'est prononcée ce matin sur les tests salivaires et antigéniques. Bonjour Célia Kiré.
Bonjour Frédéric.
Et la Haute Autorité a rendu un avis mitigé.
Oui, ces résultats ne sont pas très encourageants. Il existe plusieurs tests salivaires. La Haute Autorité de Santé distingue un premier système qui s'appelle EasyCov. Ce test est pratique pour les enfants petits, les personnes âgées ou les patients qui ne supportent pas un test par le nez. Dans ce cas précis, la HAS dit un petit oui, sous condition, le test est possible, mais uniquement pour les personnes qui ont des symptômes. Et comme il n'est pas fiable à 100%, il faudra le confirmer par un autre test PCR, qui peut aussi être salivaire. Pas de révolution, donc. Et puis pour les autres tests salivaires, type RT lampe, soyons précis, c'est un avis carrément négatif que donne le docteur Cédric Carbonneil de la HAS.
Les performances des RT lampes salivaires ne sont pas suffisantes, puisque nous avons des sensibilités qui sont de l'ordre de 75%. Donc nous sommes en dessous, très clairement, des valeurs minimales qui ont été précédemment définies par la Haute Autorité de Santé. Donc très clairement, pas d'utilisation pertinente DRT lampe chez les personnes symptomatiques. Et pour le moment, pas de positionnement de cette technique chez les personnes asymptomatiques, puisque nous n'avons pas de données disponibles robustes pour le moment.
En revanche, la Haute Autorité de Santé est très favorable au développement des tests antigéniques pour les personnes contacts. Ces tests détectent le virus par sa protéine, ils sont plus rapides et ça marche, la sensibilité est de plus de 80%. Elle recommande donc à l'assurance maladie de rembourser ces tests réalisables en pharmacie et bientôt chez les dentistes et même les sages-femmes.
Célia Akiré.
France Inter, le journal de 13h, Frédéric Barrère.
À l'étranger, Israël qualifié de mercenaire des États-Unis par l'Iran. L'Iran qui promet de punir les responsables de l'assassinat hier du scientifique Mohsen Fakhrizadeh, acteur clé du programme nucléaire iranien. Le président Hassan Rouhani accuse également l'ennemi juré, Israël, de vouloir semer le chaos. Le guide suprême iranien, Ali Khamenei, promet que les auteurs de ce crime seront punis, Nathanaël Charbonnier.
Dans cette affaire, on est passé rapidement du fait divers à une affaire politique. Il faut dire que le scientifique tué n'est pas n'importe qui. Il est à la tête du département recherche et innovation du ministère iranien de la Défense. Certains parlent de lui comme étant même le père du programme nucléaire iranien. On comprend mieux dans ces circonstances les réactions très virulentes du président iranien Hassan Rouhani contre Israël, qu'il suspecte d'être à l'origine de l'assassinat. Israël accusé de vouloir semer le chaos, Israël accusé d'agir au nom des États-Unis. Même tonalité ce matin encore dans les propos, cette fois du guide suprême iranien. Ali Khamenei, dans un communiqué, appelé à punir les responsables de l'assassinat de celui qu'il estime être devenu un martyr. Affaire politique qui fait réagir l'ensemble des autorités iraniennes. Dès hier soir, le chef de la diplomatie laissait entendre que cette action terroriste intervenait à quelques semaines seulement avant la fin du mandat du président américain, avec cette conviction que Donald Trump ferait tout pour semer la zizanie dans la région avant de partir.
Nathanaël Charbonnier. Et puis, en sport, l'un des événements du week-end, la nuit prochaine à Los Angeles, sera le combat de boxe entre Mike Tyson, qui va remonter sur un ring 15 ans après son dernier combat. Il va affronter Roy Jones. Ce sont deux ex-champions du monde des poids lourds. Mais aujourd'hui, ce sont deux vétérans, âgés tous deux de plus de 50 ans. Alors pour certains, c'est grotesque et pathétique. Pour d'autres, c'est merveilleux et fantastique. Le monde de la boxe est partagé, Fabrice Abgral.
Mike Tyson est aujourd'hui âgé de 54 ans. C'est 3 ans de plus seulement que son adversaire Roy Jones, champion du monde à son époque dans 4 catégories différentes, dont celle des poids lourds. Là où précisément Tyson a construit toute sa légende, riche de 50 victoires, dont 44 par KO. Fabrice Thiozzo, ex-champion du monde des mi-lourds, se souvient de Tyson impitoyable et destructeur.
Tyson, il faisait peur, il était fort, il allait vite, il était tout petit et pas très lourd pour un poids lourd. Tyson, quand ça commençait, tu te levais pour boire une bière, tu revenais, ça pouvait être fini.
Le journaliste Charles Bietri commentera la nuit prochaine ce duel hors norme, mais il aborde ce combat avec un peu d'appréhension.
La peur que ce soit un show moyen, pour le moment c'est ni grotesque ni merveilleux. Pour le moment, ça reste pour moi extrêmement mystérieux, intriguant.
De son côté, Julien Lorcy, ex-champion du monde des poids légers, n'attend rien de ce combat.
Ça peut pas être un vrai combat, évidemment. Les gens leur vendent comme ça. C'est tout de l'intérêt du marketing de faire croire que c'est un vrai combat. Donc ça va être une exhibition.
Si les observateurs sont plutôt dubitatifs sur l'intérêt sportif d'une telle opposition, Mike Tyson et Roy Jones, eux, promettent un vrai combat et non une exhibition. À la clé pour le vainqueur, un chèque $1 million.
Fabrice Abgral, merci. Et on termine ce journal avec la prescription du service culture de France Inter pour ce week-end et un duo détonnant à ne pas rater, celui de Cheyenne et Lola, une nouvelle série sur OCS mise en ligne cette semaine. Une série qui met en scène l'amitié improbable entre deux femmes prises dans l'engrenage du crime. C'est drôle et touchant. En tout cas, c'est le choix d'Alexandra Akoun.
Profondément touchée par le livre de Florence Aubenas, Le quai de Ouistreham, c'est dans les environs de Calais que Virginie Braque a décidé de poser son histoire, celle de deux femmes en tout point différentes, si ce n'est une vie qui s'obstine à leur donner des coups. Cheyenne, taiseuse au crâne rasé, fait des ménages sur un ferry et aimerait qu'on lui fiche la paix.
Je suis sûre d'un mec.
J'ai fait de la tôle à cause de toi. Un enfer parce que je t'ai pas balancé.
T'es ma femme.
Je suis plus ta femme, ni la tienne. Ni celle de personne.
Et Lola, jolie blonde, assistante et maîtresse d'un coach de vie bidon, qui la traite comme un paillasson.
Comment je fais ? La chambre était réservée jusqu'à aujourd'hui, cousin. Comment je vais faire pour payer
Lola.
La note ?
Lola, écoute-moi. T'as quand même conscience que tu viens de polluer notre relation avec des interférences négatives.
Pardon.
T'en as conscience ?
Oui, pardon.
Un drame va faire de ces deux-là des compagnes de galère.
Elle s'est pas accrochée comme ça en tombant, c'est pas possible.
Si ?
Non.
Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas.
Tu l'as tué.
Car la pègre locale va s'en mêler. De l'aveu même de Virginie Braque, à qui on doit déjà engrenage, il y a du Breaking Bad dans l'association de ses contraires. Sororité, désir d'indépendance, on pense surtout à Thelma et Louise, pour le charisme et la justesse de ses interprètes aussi, la canadienne Charlotte Lebon et la belge Verle Bettens, duo détonnant de ce western social, aussi drôle qu'attachant.
Chez Yann et Lola, sur OCS, le coup de cœur d'Alexandra Hakoun. Le temps pour demain.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
Un temps anticyclonique, très calme et ensoleillé sur les trois quarts du pays, mais les grisailles seront parfois plus tardives à évoluer, par exemple, de la plaine d'Alsace au Val-de-Saône. Contraste avec le temps perturbé qui circule sur le bassin méditerranéen, où le vent d'Est turbulent pousse des systèmes pluviaux orageux, avec des précipitations soutenues sur les Pyrénées orientales jusqu'en milieu d'après-midi. Sur la partie orientale de la Corse, la calmie sera pour la seconde partie de la nuit prochaine. Ces trois départements sont en vigilance orange, pluie, inondation, orage. Les températures maximales fraîches dans l'Est, avec 5 à 9 degrés entre Strasbourg, Dijon et Lyon, vont évoluer entre 10 et 15 du nord de la Loire à la Belgique et entre 15 et 18 de l'Aquitaine à la Méditerranée. Demain, rapide retour d'un temps sec sur la Corse. Ailleurs, le réveil va se faire sous la grisaille ou dans le brouillard, plus ou moins rapidement suivi d'éclaircies.
Jean-Michel Golinski de Météo France.